Pierre Perrin. Bonjour et bienvenue sur Radio Orient. Depuis le 13 juin, Israël mène une offensive d'ampleur contre l'Iran, frappant notamment les infrastructures liées au programme nucléaire de la République islamique. En retour, Téhéran multiplie les tirs de missiles, attisant le spectre d'un embrasement régional. Cette escalade s'inscrit dans une histoire longue, nourrie par l'ambition nucléaire iranienne, l'obsession sécuritaire d'Israël et l'effondrement progressif des cadres diplomatiques tels que l'accord de Vienne de 2015. Face à cet embrasement, l'Occident, divisé entre diplomatie et fermeté, cherche un chemin de désescalade. Pour mieux comprendre les enjeux de ce nouveau cycle de violence, avec nous Jean-Pierre Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collaborateur à Mediapart, longtemps reporter au quotidien Libération et écrivain. Vous êtes spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Iran et de l'Asie centrale. Alors, on le voit bien, le conflit déclenché par Israël le 13 juin dernier n'en finit pas de s'envenimer. Rien ne semble arrêter l'État hébreu.
Non, rien ne semble arrêter l'État hébreu. Probablement que le seul maître des horloges, c'est le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. C'est lui qui a décidé de l'offensive, c'est lui qui va la maintenir et c'est probablement lui qui décidera quand il faudra l'arrêter, à moins que, à un moment ou à un autre, Israël soit en difficulté avec son ravitaillement, pareil, ce qu'on ne peut pas totalement exclure, même si évidemment derrière, les États-Unis sont à la manœuvre et donnent à Israël tout ce dont il a besoin, à l'exception peut-être d'une bombe célèbre parce qu'elle n'a jamais été utilisée, la fameuse GB-73 qui, elle, est seulement en possession des Américains et que jusqu'à présent, Donald Trump n'a pas voulu donner au Premier ministre israélien.
Alors justement, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi, tout d'abord, les frappes israéliennes du 13 juin sont-elles perçues comme un tournant stratégique ?
Alors, Israël et l'Iran se mènent une guerre depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, voire davantage. N'oublions pas quand même qu'il y a eu une époque où, pendant la guerre Iran-Irak, Israël a approvisionné l'Iran, notamment en pièces détachées, pour ses appareils, ses avions, alors que l'Iran était vraiment sur la défensive, acculé, martyrisé par les offensives irakiennes. Donc, ils n'ont pas toujours été ennemis, mais ils le sont. Ils ont commencé à l'être dès la fin de la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire en 1988-1989. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il y a une guerre qui est non déclarée, une guerre indirecte, mais dont on voit les conséquences au Liban, notamment. On les a vus aussi en Syrie, on les a vus en... sans doute sur le territoire même israélien. Et depuis cette date, eh bien, cette guerre non déclarée est passée, là, la semaine dernière, donc, à une guerre ouverte, une véritable guerre, même s'il n'y a pas d'offensive au sol. Donc ce n'est pas totalement une guerre. On ne peut pas parler de guerre totale, par exemple, à cause du fait qu'il n'y a pas d'engagement au sol, mais c'est une guerre quand même assez terrible. Les bombardements visent à la fois tous les sites nucléaires du régime, mais aussi ses casernes, ses centres de commandement, sa police, sa radio-télévision, et sans doute aussi, et évidemment, les hommes, puisqu'il a décapité complètement l'état-major iranien dès le premier jour du conflit.
Le régime iranien a-t-il réellement été surpris ou était-il plutôt mal préparé à cette attaque ?
Surpris certainement, puisque sinon... à la fois le chef d'état-major des gardiens de la Révolution, le chef d'état-major de l'armée, le chef de la force aérienne, le chef des renseignements militaires et quelques autres également ont été tués dès le premier jour. Donc ça veut dire qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas, sans doute pensaient-ils que tant qu'il y avait des négociations avec les États-Unis, rien de ce genre ne pouvait se produire. Donc effectivement, ils ont été surpris, mal préparés. Ils s'y attendaient quand même, puisque dans les mois précédents, l'année précédente en particulier, Israël avait détruit en grande partie le potentiel défensif de l'Iran. Il avait notamment anéanti une grande partie de ce que lui avait livré la Russie, des S-400 par exemple. Et donc, Téhéran pouvait s'attendre au pire. Mais effectivement, je pense qu'il ne s'attendait pas quand même à une note offensive, à la fois de cette ampleur, et deuxièmement, que les frappes viseraient aussi non seulement le potentiel nucléaire de l'Iran, mais également son armée et ses généraux.
Vous l'avez dit, l'État hébreu s'en est pris dès les premiers jours aux militaires de haut rang, mais aussi aux sites nucléaires, des attaques aussi sur le plan cyber. Peut-on dire qu'Israël applique désormais une doctrine de décapitation militaire ciblée d'abord, mais également logistique générale?
Alors en 2024 est apparu un concept nouveau dans la stratégie militaire israélienne, qui est le concept de la décapitation de la pieuvre, la stratégie de la pieuvre exactement. Cette stratégie de la pieuvre consiste à penser l'adversaire non pas comme une puissance conventionnelle, mais comme la tête, une tête pensante, la tête de la pieuvre donc, qu'il va falloir décapiter. Mais auparavant, comme il s'agit d'une pieuvre, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à ses tentacules. On s'attaque à ses tentacules, c'est-à-dire qu'on les coupe les unes après les autres. Ces tentacules, ce sont ses bras armés, c'est-à-dire le Hezbollah libanais en premier, les milices irakiennes, les Houthis du Yémen, effectivement. Le Hamas, c'est différent parce que le Hamas n'a pas de lien organique avec Téhéran. Téhéran le soutient, l'aide, le conseille, lui fournit des armements quand il peut, mais il n'a pas de lien organique. Mais donc, toutes ces milices irakiennes, le Hezbollah en particulier, et puis les Houthis, eh bien, c'est les tentacules de la pieuvre. Il s'agit pour l'état-major israélien de les couper. Et ensuite, on passe à la tête. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les tentacules ont été en grande partie coupés. Maintenant, les Israéliens essayent de décapiter la pieuvre, donc l'ennemi iranien.
On le voit bien, Israël agit sur plusieurs fronts. Que cherche exactement l'État hébreu? Est-ce une capitulation nucléaire des Iraniens ou bien un effondrement du régime, ou bien les deux, hein?
Alors l'un ou l'autre, ou les deux, effectivement. Dans un premier temps, les Israéliens ont bien précisé qu'ils ne voulaient pas s'en prendre au régime lui-même, le renverser, faire une sorte de coup d'État de l'extérieur, si on peut dire. Mais c'est ce que disait en tout cas l'ambassadeur d'Israël à Paris. Mais on voit bien quand même qu'il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Et puis, de toute façon, Netanyahou a eu des déclarations qui laissent penser que Israël veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire peut-être éventuellement tuer le guide suprême Ali Khamenei. Et en tout cas, peut-être lui sera-t-il difficile d'effectuer véritablement un régime change, c'est-à-dire un changement de régime, et peut-être le sait-il, mais en tout cas, il appelle à ce changement de régime. Lorsqu'il demande aux Iraniens de descendre dans la rue, de manifester contre le régime, d'abord, ils ne se rendent pas compte de l'enjeu, là, de descendre dans la rue en ce moment pour des Iraniens, ça sera encourir la mort immédiate. Donc, il veut quand même, oui, bouleverser les choses. Jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où veut-il aller? Entre le pouvoir et le vouloir, il y a une marge. Sans doute, il veut effectivement la fin du régime iranien.
Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant. La suite de L'Orient décrypté, consacré au conflit Israël-Iran. Avec nous pour en parler, Jean-Pierre Perrin, collaborateur à Mediapart, grand reporter spécialiste de l'Iran. Israël a-t-il les moyens d'anéantir le nucléaire iranien et dans la foulée son régime? Y arrivera-t-il seul ou probablement avec l'aide de son allié, les États-Unis, qui maintient d'ailleurs le suspense avec la récente annonce de Donald Trump qui se donne 2 semaines pour décider d'une éventuelle participation aux frappes contre l'Iran. Alors, est-ce qu'Israël y arrivera seul ou avec l'aide des États-Unis?
Alors déjà, un petit mot, si vous permettez, sur Donald Trump, la façon dont il s'est prononcé pour la guerre, puis ensuite on n'est pas certain de la guerre, avec une désinvolture, une légèreté, un cynisme qui sont absolument confondants et absolument navrants. Il s'agit quand même d'un programme nucléaire avec les risques de contamination que l'on sait. Et puis, dans une guerre, il y a forcément mort d'hommes, y compris de soldats américains, s'il y a effectivement une attaque américaine. Alors, effectivement, Israël ne me semble pas en position d'arriver à complètement anéantir le régime. Le régime, même s'il est impopulaire, même s'il a des problèmes d'approvisionnement, même si bientôt son stock de missiles supersoniques, de missiles balistiques va arriver à terme, il est capable quand même d'en fabriquer tous les jours. On estime à peu près à 100 missiles la capacité iranienne de fabriquer. Alors, ce ne sont pas forcément des missiles balistiques, mais il y a quand même une capacité à produire régulièrement des armements. Donc, il est en difficulté. Il a reçu un coup terrible sur la tête. Il a perdu son commandement. Mais on voit quand même qu'il maintient une capacité de résistance assez étonnante, auquel on ne s'attendait pas forcément, surtout après les coups terribles qu'il a encaissés dans les premiers jours. Est-ce qu'il va pouvoir faire le travail, comme a dit le Premier ministre allemand, seul? Paraît bien difficile. C'est pour ça qu'il a toujours essayé depuis le début d'entraîner Donald Trump à ses côtés, de le faire un peu tomber dans un piège, c'est-à-dire on sait que Donald Trump ne voulait pas cette guerre, il s'est prononcé à plusieurs reprises contre, il a déjà freiné dans le passé plusieurs fois Netanyahou de frapper, mais là on voit qu'il l'a quand même attrapé dans son piège. Et pourquoi les Américains ne voulaient pas y aller, comme on dit, simplement parce que les négociations battaient leur plein. Il devait y avoir dimanche dernier un nouveau round, le sixième round de négociations à Mascate, dans le Sultanat d'Oman. Et là, on voit que Netanyahou n'en a pas tenu compte et a précipité l'attaque, justement pour éviter un possible arrangement. Je ne pense pas qu'un accord ait été prévu, ait été à ce moment-là à l'ordre du jour. Mais il pouvait y avoir certains arrangements entre les États-Unis et l'Iran, et donc Netanyahou a anticipé tout ça et a frappé très vite pour empêcher toutes sortes d'accords, entraînant de ce fait le président américain qui ne veut pas voir son allié en difficulté.
Alors justement, si les États-Unis se mettent de la partie, comment les choses pourraient évoluer?
Alors évidemment, si les États-Unis se mettent de la partie, il n'y aura plus aucune raison pour Téhéran de retenir ces frappes, non pas à destination d'Israël, puisqu'il le fait déjà, mais au moins de frapper où il peut dans son entourage, c'est-à-dire les bases américaines en priorité, puisqu'il est attaqué. Sans doute frappera-t-il aussi les intérêts américains où il peut, via ce qui reste de ses proxies, de ses mandataires, donc de ses alliés. Et on peut penser en particulier à l'Irak. L'Irak, les milices irakiennes chiites et islamistes sont acquises à Téhéran, si elles ont été affaiblies ces derniers temps, parce qu'il y a eu tout un tas de mesures qui les ont un peu isolées, plus des batailles souterraines. Sans doute, elles passeront à l'action. Le Hezbollah l'a menacé de le faire. Le fera-t-il? On n'en est pas sûr encore.
La diplomatie dans tout ça, on voit qu'elle a été interrompue à un moment crucial où les pourparlers allaient reprendre justement à Mascate. Puis là, il y a un semblant de reprise, une initiative européenne. Quelles sont les chances?
Alors les Européens, évidemment, c'est leur seule carte, hein, ils n'en ont pas d'autre. Ils ne peuvent pas faire pression sur l'Iran, ils ne peuvent pas faire pression sur Israël, ils ne peuvent pas faire pression sur Donald Trump. Ils sont totalement démunis, donc il faut quand même qu'ils essayent de jouer un jeu, parce que finalement, le conflit les concerne au premier chef, hein. Nous ne sommes pas si loin quand même de la zone du théâtre des opérations, surtout si celui se déplace par exemple au Liban. Donc les Européens jouent la carte des négociations, on voit que les Iraniens répondent. Ils sont d'accord pour négocier, ce qui prouve bien qu'ils sont en difficulté. Et alors, est-ce que ça changera quelque chose au conflit actuel? Là, on ne peut pas le dire encore, mais c'est peu probable que Netanyahou va céder, alors qu'il a déjà anticipé une guerre qui durerait, selon ses propres termes, plusieurs semaines. Donc, effectivement, il faut négocier, il faut croire aux négociations, mais quand même, on peut raisonnablement être pessimiste.
Et les Iraniens, on le sait, conditionnent la reprise et la poursuite des négociations à l'arrêt des frappes israéliennes, des attaques aériennes.
Oui, absolument. Et donc là aussi, en ce moment, si Netanyahou, ne serait-ce que sur le front intérieur vis-à-vis de son opinion publique, si jamais il s'arrêtait demain, par exemple, il serait complètement discrédité. Parce que Il y a eu les frappes, ces dernières frappes iraniennes qui ont été particulièrement efficaces quand même, celle qui a touché notamment l'hôpital de Beersheba. Donc, il se doit quand même de encore monter, si c'est possible, en intensité, et non pas de revenir à des négociations, ce qui serait considéré par un recul. Et de toute façon, son gouvernement, à ce moment-là, le mettrait en minorité. Donc, non, je ne vois pas les négociations aboutir. Mais c'est bien qu'elles aient lieu. Ça montre quand même que l'Iran a une volonté de n'est pas jusqu'au boutiste, que s'il y a une autre hypothèse que de résister jusqu'à la mort, puisque c'est le mot qu'ils emploient volontiers, eh bien, ils s'en empareront.
La Chine et la Russie, alliées de Téhéran, ont-ils encore du poids et leur mot à dire dans ce dossier ?
La Russie a un accord qui est quand même assez important avec l'Iran, et donc on pouvait s'attendre à effectivement un soutien plus marqué de la part de la Russie, mais visiblement on ne le voit pas. On ne voit pas la Russie à l'œuvre dans ce conflit. Poutine a proposé de négocier, c'était d'ailleurs au départ une suggestion de Trump, mais ça n'a pas été très loin et Trump n'a pas insisté. Non, je pense que Poutine va profiter de la guerre actuelle pour intensifier ses opérations contre l'Ukraine, profiter de que l'attention du monde est tournée ailleurs. Ça, c'est le premier point. Et puis, un point important, c'est que tout ce qui a été détruit par les Israéliens le premier jour n'a pas été remplacé. On n'a pas l'impression que Moscou va remplacer tout ce matériel qui a été détruit, notamment les S-400, système de défense extra perfectionné. Non, la Russie est largement absente du conflit. Quant à la Chine, alors la Chine, effectivement, importe 80% du pétrole iranien, ce qui peut sembler beaucoup. Mais si on regarde la totalité des importations chinoises, on voit que ça représente très peu de choses, finalement. Donc, la Chine, effectivement, souhaite un arrêt immédiat des combats, souhaite à condamner l'offensive israélienne, mais on ne la sent pas beaucoup s'engager.
Ce conflit a des conséquences régionales et internationales, et notamment sur les pays du Golfe, donc la région, tels que l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis. Est-ce que ces pays pourraient être entraînés ou affectés par cette montée des tensions ?
Ah oui, ils peuvent l'être. Si Téhéran décide qu'ils le seront, ils le seront. Tout dépend évidemment de l'intervention américaine ou pas. Alors, parmi les scénarios envisagés, il y a le fait que l'Iran pourrait frapper les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite, non pas directement, parce que ça serait quand même un pas très important, franchirait un seuil très important dans le conflit, mais le faire par les Houthis, ce qui est déjà arrivé dans le passé. Dans le passé, déjà, les Houthis ont frappé à plusieurs reprises, avec beaucoup de succès d'ailleurs, les installations pétrolières saoudiennes. Donc, il y a cette possibilité. Alors, qu'ils s'en prennent aux Émirats, c'est moins probable. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des intérêts de l'Iran se trouve à Dubaï, par exemple. Quantité de sociétés iraniennes, notamment qui contournent l'embargo, ils sont basés. Donc, le système bancaire iranien qui a été complètement décapité par les sanctions américaines y a trouvé quand même un certain refuge. Donc, non, on ne peut pas penser que dans un premier temps, l'Iran, en cas d'intervention américaine, frapperait les Émirats, ce qui serait quand même assez suicidaire de sa part. Se pose la question, est-ce que l'Iran frappera le détroit d'Ormuz ? Alors, des arguments pour, oui, parce que ça serait quand même... Ça affecterait immédiatement la circulation du pétrole. 20 à 30% du pétrole brut passe par ce détroit. Mais en même temps, les Américains ne le supporteraient pas. Donc, ça encore intensifierait probablement l'attaque américaine, si celle-ci devrait avoir lieu.
L'Iran peut-il encore se relever militairement au vu des frappes qu'il a subies depuis le début des attaques israéliennes ?
Alors, le potentiel... iranien n'est pas complètement détruit. Effectivement, ces chefs ont été, la quasi-totalité de ces chefs ont été tués les premiers jours. Mais ce qui s'est passé, c'est que les nouveaux chefs sont arrivés dans la foulée, voire quelques heures après, ce qui laisse une étrange impression. On a l'impression que c'est des pions qui ont été éliminés, ils ont été remplacés aussitôt par d'autres pions. Les nouveaux venus, on les connaît mal, on les connaît pas, on connaît pas leurs capacités, mais on voit au moins une résilience iranienne, hein. Elle, chaque jour, elle envoie des missiles sur Israël, donc elle n'est pas complètement, par terre, contrairement à ce que pouvait espérer Netanyahou. Je crois que la résistance iranienne est une mauvaise surprise pour Netanyahou, même si, à l'évidence, l'Iran ne fait pas le poids face à Israël. On voit que tout le ciel iranien est entre les mains de l'aviation, entre les ailes, en quelque sorte, de l'aviation israélienne. Ils vont frapper jusqu'à Meshed, c'est-à-dire au nord-est, non loin de l'Afghanistan. Donc, c'est-à-dire qu'ils accomplissent des distances considérables en toute, je ne vais pas dire tranquillité, mais c'est un peu ça quand même. Ils ne sont pas du tout menacés par le système anti-aérien iranien qu'ils avaient pris soin d'anéantir, donc, bien avant l'année passée notamment.
Ce conflit, Jean-Pierre Perrin, est-il en train de redéfinir les équilibres au Moyen-Orient ?
Ah, pas seulement au Moyen-Orient, il redéfinit les équilibres à l'échelle du monde. C'est-à-dire que de cette issue, nous aurons un monde assez différent qui va surgir lorsque les armes, lorsque les bombardements s'arrêteront. C'est parce que tout dépend effectivement si les États-Unis interviennent. Là, nous aurons quand même un autre monde qui va naître, encore plus polarisé. Et de toute façon, le Moyen-Orient va être à nouveau façonné. Si l'Iran mord la poussière, ce qu'on ne peut pas exclure, eh bien, évidemment, nous aurons un autre régime iranien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera pro-israélien, on n'en sait pas encore. Mais en tout cas, ça sera plus le même procès. Il y aura plus toutes ces tentatives de déstabilisation qu'on a pu observer en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen et voire dans la péninsule arabique. Donc, oui, on aura un nouveau Moyen-Orient. Et puis, le nouveau régime iranien, peut-être sera-t-il même pro-américain. C'est en tout cas ce que les Américains et les Israéliens veulent. Pour ma part, moi, j'ai tendance à penser que si le régime tombe, je dis bien, si le régime tombe, on verra sans doute un général apparaître, un peu sur le modèle du Shah d'Iran lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'il se moquera sans doute complètement des libertés publiques, mais il donnera ce que les Iraniens réclament en premier, les Iraniennes en particulier, c'est une certaine liberté de mouvement, de voile, de porter le voile ou pas, des libertés individuelles. Je pense qu'il y aura, mais la politique sera sans doute encore confisquée par le nouveau pouvoir.
Pour finir, Jean-Pierre Perrin, vers quel scénario se dirige-t-on ? Compromis sous pression ou guerre ouverte ?
Alors pour le moment, guerre ouverte. On n'est pas encore à l'étape du compromis. Les frappes iraniennes sur l'hôpital font en sorte qu'on ne peut pas envisager de compromis pour le moment. Là, c'est un coup quand même qui a été porté à Netanyahou, ces frappes, même si le bilan humain n'est pas considérable, mais c'est quand même une atteinte à son prestige. Donc, je pense que Netanyahou va renouveler ses appels à un soulèvement général de la population qui, je pense, n'aura pas lieu, en tout cas pas maintenant.
Jean-Pierre Perrin, merci pour cet éclairage.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes journaliste collaborateur à Mediapart et grand reporter spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Iran. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre site internet www.radioorient.com. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme.
L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.